Et maintenant, on aborde en fait le sujet du totalitarisme avec Ariane. Avec Ariane qui va nous parler un petit peu de tout ce qui est technique d'instauration du totalitarisme, par qui, par quelle méthode de harcèlement et pourquoi, en fait, finalement. Donc, Ariane, je t'en prie. Et pendant oui. que...
Alors,
merci Ariane.
C'est un sujet très complexe, hein, donc c'est encore un challenge aussi d'essayer de résumer de quoi il s'agit. Je voudrais commencer par dire que Hannah Arendt, qui a été donc la philosophe hein, du totalitarisme, nous disait que pour combattre le totalitarisme, il n'était pas nécessaire de le comprendre. Donc ça, je pense que c'est déjà un premier point très important, optimisme. Et puis, elle nous disait, il suffit, je la cite, de comprendre ceci, il représente la négation absolue de la liberté. Le totalitarisme représente la négation absolue de la liberté et donc pose nécessairement la question qu'est-ce qu'un être humain? Est-ce un être libre? Qu'est-ce que la liberté? Et si je peux rajouter par rapport à tout ce qui a été dit, je crois que la suppression des humanités qui précisément nous humanise est au cœur du problème que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, avant de rentrer plus dans les détails, j'ai envie de dire que donc Vincent Pavant et moi avons beaucoup travaillé l'année dernière sur un livre que d'ailleurs Jean-Dominique Michel, ici présent, a préfacé et qui paraîtra début mars et qui s'appelle « Le débat interdit » et est déjà disponible en pré-vente. Le débat interdit, langage Covid et totalitarisme, nous nous sommes attelés à analyser ce qui se passe du point de vue de la corruption, de la logique et de la langue, ce qui est un des points de manipulation de masse sur lequel on pourra pas forcément, qu'on ne pourra pas forcément trop développer aujourd'hui, mais la question de la manipulation de la logique et de la langue par une série de paradoxes et de non-sens fait partie de la sidération intellectuelle mentale qui saisit les gens. Alors, j'ai envie de prendre une autre citation et de dire aux gens, si vous avez envie de comprendre rapidement ce que c'est que le totalitarisme, il y a un livre à lire pour le saisir de l'intérieur, c'est le livre d'Arthur Koestler, « Le zéro et l'infini », dont je vais prendre une citation qui va aussi nous dire ce que c'est que le totalitarisme, et je crois qu'on est au cœur de cette question-là aujourd'hui. C'est un livre qu'il a écrit suite à lui-même son endoctrinement dans le régime soviétique et petit à petit la déconstruction de l'idéologie dans laquelle il avait été pris et de certain nombre d'événements et de corruptions auxquels il avait lui-même participé tout en croyant servir un idéal tout à fait honnête. Alors, je prends cette citation. Il n'y a que deux conceptions de la morale humaine et elles sont à des pôles opposés. L'une d'elles est chrétienne et humanitaire, elle déclare l'individu sacré et affirme que les règles de l'arithmétique ne doivent pas s'appliquer aux unités humaines, qui dans notre équation représentent soit zéro, soit l'infini. L'autre conception part du principe fondamental qu'une fin collective justifie tous les moyens et non seulement permet, mais exige que l'individu soit en toute façon subordonné et sacrifié à la communauté, laquelle peut disposer de lui, soit comme d'un cobaye qui sert à une expérience, soit comme de l'agneau que l'on offre en sacrifice. Je crois que la question totalitaire, elle pose fondamentalement cette question-là, c'est une question de philosophie morale et politique, bien sûr, mais c'est aussi une question de philosophie morale. Et donc, à la sortie de la parution de Koestler, de son livre « Le zéro et l'infini », il y a eu beaucoup de commentaires, il s'en est pris plein la figure dans le même genre qu'on peut s'en prendre aussi plein la figure aujourd'hui dès qu'on va manifester un désaccord par rapport à l'idéologie dominante ou simplement poser des questions. Et il y a un de ces commentateurs de l'époque, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on peut reprendre aussi pour comprendre simplement de quoi il en retourne, qui va dire, donc Thierry Mollier en 47, qui va dire que Koestler s'épouvante devant un machiavélisme politique, une manière purement objective de traiter les problèmes humains qui sacrifie un idéal théorique d'affranchissement collectif des hommes. Aujourd'hui, l'idéal, c'est la santé, enfin, pas la santé mentale, hein, bien sûr, parce que s'il y a bien sûr quelque chose qui a été jeté à la poubelle dès le début de la crise, c'est la santé mentale. Le destin de chaque personne particulière considérée comme quantité négligeable. et qui, Kössler s'élève contre une méthode qui refuse de faire entrer en ligne de compte la quantité humaine, la prétention à l'existence individuelle, la conscience individuelle du jeu. Ça, je pense, il ne considère chaque homme que comme un facteur positif ou négatif, si ça ne vous rappelle pas quelque chose aujourd'hui, à chacun est donc réduit à un cas positif ou négatif, à utiliser ou à éliminer un instrument ou un obstacle sur la route des conquêtes révolutionnaires à l'époque, mais nous sommes aujourd'hui sur une question d'idéologie totalitaire. Donc, en clair, le totalitarisme, c'est une structure, c'est-à-dire que, quel que soit le décor, ce qui compte, c'est quelle est la charpente qu'il y a derrière. Donc, je renvoie, parce que j'ai fait beaucoup d'émissions, je ne vais pas redire la même chose de la même façon, mais ceux qui veulent approfondir peuvent effectivement voir les émissions. J'ai beaucoup d'articles sur mon site, il y a plus d'une centaine d'articles en accès gracieux sur la question totalitaire, sur le harcèlement qui est la méthode du totalitarisme. C'est sa méthode, c'est son chef-d'œuvre. Et puis, ceux qui veulent vraiment ensuite approfondir ou avoir davantage de nourriture, j'ai aussi ouvert des ateliers sur penser le phénomène totalitaire. Ils peuvent venir à la fois des gens qui n'y connaissent absolument rien et puis des professionnels. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de personnes et on essaye de réfléchir ensemble. Et j'ai deux niveaux d'ateliers. Le deuxième niveau, nous n'avons jamais fait la même chose. C'est un niveau confirmé depuis plus d'un an. C'est dire que la question est vaste, hein, puisque en fait, ça concerne vraiment la question, le sens de notre nature humaine, qu'est-ce qu'on fait ici, quel est le sens de nos vies, sommes-nous des êtres libres ou pas, à quelles conditions, etc. etc. Donc, on peut l'aborder de plein de façons différentes. Donc, c'est une structure qui considère, premièrement, que la fin justifie les moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va justifier d'utiliser comme un moyen ce qui n'en est pas, un être humain. C'est-à-dire que si à un moment donné, pour la cause commune, l'idéal commun, supposé bien commun, il faut qu'on tue des gens, on le fera. Et je voudrais rappeler, et on s'appuie beaucoup sur ça dans le livre que j'ai écrit avec Vincent, que ce n'est pas nouveau. La question du sacrifice d'une partie de la population pour des épidémies, c'est quelque chose de très archaïque. C'est une croyance très archaïque de « nous sommes punis, nous avons péché, donc nous sommes malades, et pour satisfaire les dieux, nous allons sacrifier sur l'autel commun certains d'entre nous, et en particulier les plus innocents. » Voilà. Donc, la question du totalitarisme, c'est la première chose, c'est ça, c'est la logique sacrificielle, la fin justifie les moyens. Et ça correspond, il y a toujours un idéal évidemment auquel tout le monde ne peut que souscrire, mais qui est d'ordre tyrannique, c'est-à-dire qui nous tyrannise. Et toutes les méthodes sont bien sûr permises, notamment le harcèlement. Alors, le harcèlement, c'est une méthode qui consiste à conduire à l'autodestruction. Par des chocs traumatiques réitérés qui sont présents sur la durée. Voilà, en clair, je vais essayer de faire un résumé très court, même si, encore une fois, je renvoie, pour ceux qui veulent approfondir, à mon site. Alors, cette structure, c'est-à-dire que quel que soit le décor, bien sûr que c'est Hannah Arendt qui a travaillé le totalitarisme et l'a mis en mots pour dire que vise le totalitarisme, il vise la domination totale sur les individus. C'est-à-dire que, contrairement à une tyrannie, une fois que le tyran il a son pouvoir et que ses citoyens globalement obéissent, il ne cherche pas nécessairement une intrusion dans tous les recoins de la vie intime des gens. Le totalitarisme, si. Et le totalitarisme, c'est une structure qui répond à l'organisation suivante, rechercher la prise de pouvoir totale sur la vie des individus, c'est-à-dire leur supprimer l'intégralité de leur liberté, viser précisément le cœur de la liberté, c'est-à-dire la vie intime des sujets, puisque c'est dans l'intime que se construit la liberté de l'esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe Hegel, philosophe quand même austère de la philosophie du droit, mais il inscrit la naissance du droit dans la morale et la question de la morale dans la question de la liberté et la liberté dans le respect de notre vie intime. Donc voilà, en clair, c'est ça. Et donc, cette structure, pour prendre le pouvoir total, elle correspond à une alliance de différentes pathologies en termes psychiatriques du terme, c'est-à-dire une alliance de, d'une psychose, qui est la psychose paranoïaque, qui va lancer la structure du totalitarisme sur le mode de un ennemi visible ou invisible nous veut du mal. Donc nous devons déclencher l'idéal pour éliminer cet ennemi visible ou invisible. Tous les moyens sont permis pour le faire, y compris voilà, la destruction de citoyens, l'éradication de citoyens, etc. Et ça ne s'arrête jamais, puisqu'en fait, c'est un délire de persécution. C'est-à-dire que ça s'arrête en agonisant. Kessler dit que c'est une mère qui mange ses propres enfants, c'est toujours dans le zéro et l'infini. C'est une œuvre littéraire, mais vraiment, on comprend exactement ce qui se passe, et on s'en imprègne surtout. Donc, c'est une logique politique qui vise la domination totale, qu'elle soit sur les individus, mais qu'elle soit aussi spatiale, puisque ça vise l'expansion spatiale. Le tyran, il se contente de son périmètre, on va dire. C'est aussi la raison pour laquelle on peut considérer que l'Empire romain a eu déjà une forme totalitaire. Lacan disait que c'était une épidémie, hein, du fait de ses velléités d'expansion permanente sur, voilà, sur, au niveau géographique aussi. Donc, il n'y a pas tout l'Empire romain, mais qu'à un moment donné, il y a eu quand même des visées, voilà, visées totalitaires. Alors, cette domination totale ne supporte bien sûr aucune contradiction, aucun esprit libre, aucune critique. Et pour se maintenir au pouvoir, bien sûr, comme c'est un pouvoir illégitime, il faut qu'il se maintienne par l'idéologie. L'idéologie, c'est une croyance qui est très éloignée de l'expérience de la réalité, qui s'en fout complètement, encore une fois, de savoir quels sont les dommages sur les individus réels, qui gère donc les êtres humains à maxima comme des chiffres, ce que Vincent Pavant, dans notre livre, appelle le dieu des mathématiques, hein, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de foi dans des chiffres plutôt que des êtres humains, c'est une logique quantitative et pas qualitative. Et c'est le moment d'une suppression du droit. Donc, le grand philosophe Giorgio Agamben, italien, qui s'est prononcé dès le départ sur cette crise, a rappelé que le moment totalitaire, c'est l'état d'exception, c'est-à-dire c'est un moment où, en fait, on va considérer qu'on peut supprimer tous les droits parce qu'il y a cette fameuse cause commune, ces fameux idéalités tyrannique auquel on va souscrire et qui justifie donc la suppression des droits des individus. Il parle d'une éclipse du droit, c'est-à-dire le droit n'émet plus sa lumière. Il existe là, mais comme une vieille relique poussiéreuse sur une étagère. Hein. Donc, en fait, c'est le moment où tout est permis parce que le pouvoir totalitaire a besoin de régner par la terreur et par une idéologie sans cesse mouvante. C'est la raison pour laquelle cela change tout le temps, le discours, parce qu'il ne faut surtout pas figer un discours qu'on pourrait commencer à analyser, et il faut réussir à perdre les esprits. C'est un régime qui fonctionne sur la propagande et qui ne fait que s'accentuer dans la violence et la persécution, puisque c'est un délire de persécution qui se répand de façon collective, puisque la paranoïa est une psychose, et ça, on le sait depuis très longtemps en psychiatrie, qui est contagieuse, c'est la psychose des sectes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens rentrent dans une contagion délirante, rentrent dans une croyance qui est très, très éloignée de la réalité et qui les fait se dissocier, ou la dissociation est aussi à l'origine de cette entrée dans la contagion délirante, et ne plus avoir aucune empathie pour leurs proches, puisqu'ils sont ou des gens qui pourraient penser de façon différente délire collectif dans lequel ils sont rentrés. Et cela mène les individus extrêmement loin, c'est-à-dire que le totalitarisme ne s'arrête pas en si bon chemin. C'est un mouvement politique qui ira jusqu'à l'autodestruction et probablement la guerre, puisque ça fait partie de la pathologie paranoïaque. Donc, la question du système totalitaire, c'est que l'individu finit par être totalement annihilé en tant qu'être humain, avec une vie psychique, avec des éventuels droits, voilà. Et je crois que le problème, c'est que c'est pour ça que je parlais d'un problème moral. À partir du moment où on sacrifie l'idée que nous sommes des individus avec des droits humains fondamentaux et des individus libres, les conséquences seront largement pires que tout ce qu'on peut imaginer dans la fameuse fin justifie les moyens, c'est-à-dire dans une fin hypothétique qui pourrait nous donner un meilleur confort, une meilleure santé, une meilleure sécurité, etc. Parce qu'à partir du moment où on a abdiqué la notion d'individu sacré, eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le régime totalitaire fonctionne à l'arbitraire. Donc, au départ, bien sûr, il va cibler des opposants, mais ensuite, il va cibler tout le monde. Et donc, plus personne ne sera à l'abri de ce traitement absolument inhumain. Voilà, pour essayer de présenter brièvement de quoi il s'agit.
Merci énormément, Ariane. C'était vraiment très intéressant. C'était une très bonne synthèse. Alors, d'une manière globale, également, ce que je recommande à tout le monde, donc tu as pas mal déjà synthétisé pas mal de choses. Vous avez, je me permets de recommander, notamment donc sur la chaîne YouTube d'Ariane Liran, donc sur sa chaîne, notamment dans les derniers lives qu'elle a réalisé, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'était imprégné un petit peu des lives que tu avais déjà fait précédemment, notamment en octobre 2021 sur Pour Equivoc Time, où pendant une heure et demie, là, tu as vraiment bien développé la partie vraiment sur le totalitarisme. Je vous la recommande fortement, c'est vraiment très intéressant, on rentre vraiment dans les détails. Également en novembre 2021 avec Jérémy Mercier, donc notamment pour Science en Conscience, pour Réinfo Covid, où là également vous avez abordé un ensemble de sujets donc qui se complètent énormément. Et également avec Caroline Escartefig, qui est également là présente ce soir, en mai 2021 déjà également, un live aussi également assez intéressant sur le sujet. Donc pour celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas. Donc vous pouvez retrouver également un développement de tous ces sujets qui viennent d'être abordés, notamment par Ariane. Et puis, comme je vous le répète, pour celles et ceux qui nous rejoignent en fait en cours de live sur la page Facebook du collectif Libertad, donc réinformons collectif Libertad, on va même vous mettre un post avec tous les liens vers les livres, les vidéos que vient de vous citer, notamment Ariane.
Donc, je peux rajouter peut-être un livre que j'avais oublié de citer, on le mettra. C'est un livre d'un philosophe qui s'appelle Michel Terestchenko, qui s'appelle « Un si fragile vernis d'humanité ». Et là, on comprend bien que, bien sûr, que le totalitarisme aujourd'hui, il est beaucoup plus dangereux parce qu'il a des techniques et des technologies et une ambition globale sur la planète entière qui fait que c'est plus compliqué d'aller fuir un pays le temps que ça. Voilà. Il est bien plus dangereux sous cet aspect-là, mais au final, la nature humaine, elle est la même depuis la nuit des temps. Et je crois que ça, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que ça n'est pas nouveau. Ce que nous traversons, ce n'est pas nouveau. L'humanité, au niveau psychique, je parle, l'humanité, elle est tout le temps traversée entre son besoin, son désir, son aspiration à la civilisation qui est fondée sur, effectivement, comme l'avait dit Karine tout à l'heure, des interdits fondamentaux, et sa fascination pour la régression dans la sauvagerie, la loi du plus fort, la transgression, etc. Et c'est très important parce que finalement, le totalitarisme, il joue sur trois tableaux. Enfin, plus je l'analyse, plus je le vois comme ça, pour entraîner la régression psychique des gens, cette fameuse régression qui fait que on ne reconnaît plus des gens qu'on croyait connaître et finalement ils deviennent très pervers, abusent de leur petit pouvoir de chez Fayon, etc. par exemple. Ces trois angoisses extrêmement violentes qui sont l'angoisse de mort, l'angoisse de tout perdre, et ce qu'on appelle en psycho l'angoisse de morcellement, c'est-à-dire d'être découpé, torturé dans son corps, etc. Et en fait, ces trois angoisses sont activées dans l'imaginaire, on pourrait dire, du pouvoir totalitaire, de sorte qu'au bout d'un moment, les personnes qui n'arrivent pas à affronter ces trois angoisses, en clair, préfèrent que ce soit les autres qui meurent, que ce soit les autres qui perdent tout, et que ce soit les autres qui finissent par être transgressés et torturés. Voilà, donc c'est une logique de survie. Le totalitarisme, c'est une logique de survie, ce n'est pas une logique de vie, et nous, on doit vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on veut pour notre humanité ?
Merci Ariane pour ces compléments. On avait juste la question, c'est quoi le titre du livre de Michel Trichenko ?
C'est « Un si fragile vernis d'humanité ». Merci. Et alors c'est très intéressant parce que dans ce livre justement, puisque mes collègues vont parler d'expérience de Milgram, etc., qui est très connue, mais il en dévoile d'autres qui sont très, beaucoup moins connues, mais qui sont encore plus sidérantes, encore plus effrayantes, et notamment une expérience à Stanford au niveau de l'université qui démontre la collaboration, parce qu'il faut rappeler que dans le système totalitaire, malheureusement, plus les gens sont insérés dans le système, plus ils ont fait d'études, plus souvent ils collaborent à ce système-là. Et donc, il y a une expérience qui développe en fait dans ce livre et qui est absolument effrayante sur la soumission dans des milieux universitaires.
Ok, merci à toi. Du coup, j'aurais une petite question et là, ça va être, c'est pas davantage l'animateur qui pose la question, mais je pense que c'est la question que beaucoup se posent, plus davantage le citoyen qui n'a pas davantage de connaissances psychologiques. Finalement, donc dans l'application du totalitarisme en tant que tel, finalement, en fait, qui l'applique et comment se fait-il que certains l'appliquent sans même s'en rendre compte ? On pense, par exemple, c'est vrai que quand on essaie d'aborder le sujet avec des personnes, on dit « mais tous les journalistes de tous les médias, ils ne peuvent pas être, entre guillemets, tous de mèche ». Donc, la question, c'est en fait, qui l'applique ? Comment se fait-il qu'ils arrivent à le faire appliquer, on va dire, à faire propager à l'échelle des médias, finalement, ce totalitarisme-là ? Puisque ce n'est pas que la parole du gouvernement, on voit qu'il diffuse véritablement dans les médias, notamment mainstream. Donc, comment ça se passe, on va dire, pour faire ce lien-là ? Et surtout, la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, est-ce que du coup, celles et ceux qui appliquent le totalitarisme sont-ils formés ? Comment apprennent-ils ces techniques-là ? Ou est-ce que c'est juste une pathologie, comme tu l'indiquais ? Ou est-ce qu'il y a véritablement un apprentissage à un moment donné, dans leur cursus, dans les sphères qu'ils côtoient, qui leur permet, entre guillemets, de savoir comment exploiter, entre guillemets, l'individu humain.
Ok. Alors, moi, j'appelle les folies ou les perversions, parce que perversion, ce n'est pas une folie, qui aspirent au pouvoir, en tout cas, surtout la psychoparanoïa qui aspire au pouvoir absolu, je les appelle les passionnés du pouvoir. Et je pense que c'est ce à quoi nous avons affaire depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que chez Platon, hein, on retrouvait bien l'idée que ceux qui ont le pouvoir, et qui aiment le pouvoir, il faudrait surtout ne pas le leur donner, et il faudrait le confier à ceux qui n'aiment pas en fait le pouvoir, donc ils ne vont pas en abuser, parce que en fait, l'idée d'aller chercher du pouvoir sûr, les autres, c'est déjà, souvent ça concerne des pathologies très narcissiques, c'est-à-dire qu'il y a une haute, enfin, en tout cas qu'il paraissent avoir une haute image d'eux-mêmes et des profils qui sont quand même très peu empathiques. Hein, donc on va retrouver perversion pour l'instrumentalisation des autres et la jouissance de son intérêt personnel, paranoïa donc pour la folie résonante, l'ambition totalitaire et la psychopathie hein, pour différents passages à l'acte. Essentiellement, on va retrouver ces trois pathologies. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui aspirent au pouvoir absolu, c'est pas n'importe qui. Moi, j'y aspire pas. Je pense qu'ici, personne n'y aspire. Et donc, ce n'est pas n'importe quel profil. On en avait parlé dans l'interview qu'on avait faite avec Caroline, ici présente, où on avait parlé, j'avais parlé de mon point de vue, que en fait, la question, ce fameux terme complotiste, il ne veut rien dire. En fait, il nous empêche, il nous cloue le bec pour empêcher de dénoncer des complots réels. Le pouvoir, c'est le lieu des complots. Je veux dire que j'imagine, c'est à la cour des Médicis, ça complotait en permanence. Quand on était également chez Néron, ce n'était pas mieux. Donc, en fait, la question de comment j'accède au pouvoir et comment je le conserve quand je ne suis pas légitime et que j'aime le pouvoir et que j'ai une passion du pouvoir, eh bien, c'est la question principale des passionnés du pouvoir. Donc, Machiavel, par exemple, c'est un conseiller au niveau de la gestion de l'accession et de la conservation du pouvoir. Hein, donc, parce que quand on n'aime pas le pouvoir, si on y est mis, on a plutôt envie de s'en aller. Voilà. Donc, quand on aime le pouvoir, on veut s'y maintenir. Et on a toujours des ambitions encore plus importantes et d'autant plus importantes qu'on est illégitime. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est passionné du pouvoir, bien sûr qu'il se pose toujours la question de comment soumettre davantage les citoyens. Ce sont des experts en techniques de manipulation mentale, bien sûr, ou en tout cas, ils vont s'entourer d'experts en manipulation mentale, parce que la folie, elle concerne l'ambition de pouvoir total. Mais il faut bien sûr des experts en manipulation de masse, il faut des experts en technique, c'est-à-dire que la psychologie, elle peut encore une fois servir soit à autonomiser les individus, et effectivement, on est toujours dans cette double conception de la morale dont je parlais tout à l'heure, soit à les instrumentaliser et à pouvoir comprendre comment le psychisme fonctionne pour le réduire. J'ai parlé à plusieurs reprises d'international nazi, parce que c'est à ça que nous avons affaire aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était quelque chose dont nous avait prévenu Hannah Arendt dans un article en 1945. Le nazisme, un, n'a pas perdu la guerre, deux, n'est pas mort, trois, reviendra sur un plan international et notamment sous la figure de l'Europe. Donc, c'est très clair, c'est-à-dire que nous avons affaire aujourd'hui à un remake du surhomme transhumain. Et puis, il va falloir éliminer les inutiles, les non-essentiels, les vieux qui coûtent trop cher, etc. etc. C'est encore une fois l'instrumentalisation. Et il faut bien savoir que les scientifiques nazis ont été récupérés, ont été exfiltrés par exemple en Amérique du Sud ou aux États-Unis. Ils ont continué à travailler ces méthodes d'expérimentation mentale, de manipulation mentale sur les êtres humains. J'avais fait une émission avec Don Devamos, la journaliste, sur cette question. Il y a beaucoup de choses sur son site. Et dans ces questions de manipulation mentale, il y a aussi la question des manipulations sexuelles, c'est-à-dire des transgressions sexuelles. Moi, j'ai eu mon initiation sur ce qui se passe au niveau international en découvrant les textes internationaux des droits sexuels sur les enfants. Il y a aussi des expérimentations médicales qui n'ont jamais cessé, donc sur des êtres humains, donc en particulier. Et Vera Sharav, rescapée de l'Holocauste, en a parlé au niveau des expérimentations médicales nazies qui se sont poursuivies sur des orphelins. On est dans des trucs extrêmement sordides dont on n'est pas forcément au courant si on ne met pas le nez dedans. Mais c'est très important de comprendre de quoi il en retourne. C'est-à-dire que Mengele ne fut pas un cas isolé et continue sous une autre forme. Voilà. Donc, ça, c'est pour qui le qui aujourd'hui. Donc, ça, je pense que Rainer Fulmich fait son travail d'investigation pour noter les noms, mais c'est quand même très intéressant parce qu'on retrouve des filiations directes de père en fils. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent très clairement à qui on a affaire parce qu'on ne peut pas se défendre d'une situation. Si on n'en comprend pas les tenants et les aboutissants et si on ne comprend pas qui mène les opérations. Donc, bien sûr qu'il y a toute une cohorte d'experts du psychisme qui sont là, non pas pour émanciper les gens et leur permettre de soigner leurs souffrances et d'acquérir de l'autonomie, mais au contraire, pour les soumettre. Voilà, ça c'est très clair et ça c'est depuis la nuit des temps. Sauf qu'aujourd'hui, on utilise des technologies et notamment le rapport à l'image qui est assez nouveau, et ces technologies, le grand risque, c'est que finalement, elles finissent par tous nous autodétruire. Quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, on donne, ça c'était vraiment l'alerte qu'avait donné le premier mari d'Hannah Arendt, Günther Anders, sur le fait que nous avons acquis maintenant les capacités d'autodestruction de l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et on est vraiment à la croisée des chemins. Et je pense que si on comprend ça, on comprend aussi que nous n'avons pas d'autre choix que de résister. Voilà, c'est très simple, nous n'avons pas d'autre choix que de résister parce que nous passerons dans le filet aussi, en fait. Donc, on ne peut pas continuer à obéir indéfiniment. Alors, le problème, c'est pourquoi les gens obéissent. Encore une fois, le totalitarisme va utiliser le harcèlement, c'est-à-dire il va envoyer des chocs traumatiques. Des chocs traumatiques, ce sont des menaces à l'intégrité sur soi ou sur autrui. Donc, en fait, on va intérioriser le message que on est en danger de mort, quelle qu'en soit la cause. Et donc, ça va fissurer l'individu en plusieurs morceaux parce qu'il ne peut pas gérer cette angoisse de mort ou encore une fois, angoisse de tout perdre ou angoisse de morcellement, les trois angoisses dont j'ai parlé. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle de la sidération, c'est-à-dire l'incapacité. C'est comme si l'individu restait scotché. pour le dire un peu basiquement. Donc, il va fonctionner en mode automatique. Et à partir de là, l'autre, son agresseur, son bourreau, peut lui greffer, en fait, tout un certain nombre de pensées de façon presque suggestive et hypnotique. Et l'individu va répéter, comme un perroquet, les dogmes de la secte, tout simplement. Parce qu'il lui est insupportable de se confronter à ses trois angoisses, à son trauma, et aussi à... Il y a une dimension de syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que les personnes se retrouvent séquestrées par leur... c'est un petit peu ce que nous avons vécu par leur agresseur. Et donc, il y a une logique de survie qui se met en place, qui est comment pouvons-nous être le plus aimable possible, le moins déplaisant possible à notre agresseur, de façon à pouvoir sauver notre peau. Et c'est très inconscient. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens ne réfléchissent pas à ça, le subissent, ce sont des victimes de tout ça. Et à un moment donné, il y a une telle violence psychique par l'usure, par la répétition, par les traumatismes, etc., qu'il y a des gens qui vont régresser sur le plan psychique et notamment dans la perversion, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser son petit pouvoir, de pouvoir, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas pervers mais peuvent le devenir. En clair, comment vous dire ? Dans le totalitarisme, il y a premièrement une permission. C'est la persécution des experts et des gens compétents qui peuvent mettre en question la légitimité du système totalitaire. Donc, ça va laisser des places. Et ça va laisser des places à qui ? À tous les médiocres, les incompétents, les haineux et les envieux qui n'arrivaient pas à avoir ces places-là. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Klemperer qui a analysé la langue nazie et qui constate ça. Donc ça, c'est le boulevard, en fait, à tous ceux qui n'avaient pas réussi à avoir des postes, etc., qui étaient pris par les vrais experts. Les vrais experts dégageant, ça laisse de la place et ils peuvent s'y mettre. Ça, c'est premièrement. Donc c'est le boulevard laissé à l'envie, à la haine. Voilà, il y a la satisfaction de petits pouvoirs. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui n'étaient pas pervers et qui vont le devenir, c'est-à-dire qu'ils vont régresser parce qu'ils ne peuvent pas affronter la violence de ce qui se passe. Donc, quelque part, il va y avoir une telle régression. C'est quoi la perversion ? C'est instrumentaliser l'autre. On ne ressent pas de souffrance, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, mais on ne la ressent pas. Par contre, on l'inflige à l'autre de façon sadique pour se contempler cette souffrance-là chez l'autre. C'est ça la perversion. Donc, en deux mots, hein, c'est compliqué. Donc, il y a plein d'individus qui vont régresser dans la perversion et on doit au psychanalyste Racamier de nous avoir expliqué que la perversion, c'est quoi ? C'est une façon de se défendre pour ne pas devenir fou. C'est-à-dire qu'en fait, on va devenir pervers pour ne pas devenir fou, pour ne pas être pris dans une folie dont on ne sortira pas. Peut-être pas, parce qu'il faut bien comprendre que là, au niveau des dégâts psychologiques de santé mentale, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est un accroissement d'addiction absolument effarant parce que les gens cherchent à gérer leur angoisse. C'est une détérioration majeure de la santé mentale parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris dans le délire sectaire. Et pour les sortir de là, ça va être compliqué. Et ça peut être très brutal, ça peut entraîner des décompensations psychiatriques très violentes. Et troisièmement, ce sont des gens qui vont injecter à l'intérieur d'eux, enfin, projeter la pulsion de mort, c'est-à-dire que je vais en parler juste après, et donc qui vont réaliser le désir du pouvoir totalitaire, qui est de conduire à l'autodestruction, c'est d'avoir même pas à faire le travail de détruire, c'est que l'autre va finir par intérioriser son agresseur et s'autodétruire, et puis il va finir par se suicider. Donc c'est une augmentation considérable des suicides et des taux de suicide. Alors je voudrais juste finir par deux choses qu'il faut bien comprendre, c'est que Hannah Arendt parle de l'isolement des rapports sociaux dans le totalitarisme. C'est vrai qu'il faut isoler les individus pour qu'ils ne puissent plus créer du lien structurant entre eux. Mais en fait, c'est surtout ce qu'il faut comprendre. Pourquoi les gens finissent par être complètement avalés dans tout ça, c'est la nature du lien. La nature du lien qui existe entre les gens. C'est-à-dire que quand on est dans une civilisation qui fonctionne, le lien entre les gens, c'est un lien d'hospitalité, d'accueil, de bienveillance, d'ouverture à l'autre, d'amour, d'amitié et de charité. C'est-à-dire on va donner à ceux qui sont plus vulnérables, même s'ils ne peuvent pas nous rendre. Donc, quand c'est dans une civilisation qui fonctionne, c'est ça la nature du lien. Donc, c'est exactement, on revient aux deux conceptions de la morale dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand on est en système totalitaire, la nature du lien, c'est un lien de rejet de l'autre, d'exclusion, de peur, et c'est donc un lien qui va conduire à la haine. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Donc, en fait, quand les gens sont pris dans un collectif où la nature du lien, c'est la méfiance de tous contre tous, l'autre, il va me dénoncer, peut-être dans la délation, et puis qu'est-ce qu'il pense, et puis c'est un lien de rejet et de haine, eh bien, c'est pas difficile à comprendre que la suite du film, c'est des passages à l'acte, c'est-à-dire de la violence des uns contre les autres. Voilà. Donc, c'est assez simple si on le conçoit de cette façon-là. Et donc, effectivement, quand on est dans la folie paranoïaque du régime totalitaire qui est la méfiance de tous contre tous, eh bien, on finit tous parano à la fin, si on se laisse faire et si on n'a pas, on prend pas de la distance par rapport à ce qui se passe. Donc, voilà, j'essaie de résumer. C'est un peu compliqué, c'est très compliqué. Hein, voilà.
Ouais. C'était en tout cas vraiment très intéressant. Merci en tout cas, Ariane, pour tous ces éclaircissements. On voit que c'est quand même quelque chose de très complexe. Du coup, on a également pas mal d'autres points à aborder. Je vais pouvoir laisser la parole à Amandine. En fait, on va faire la transition. Elle va compléter avec un ou deux petits éléments. Et pour pouvoir faire la transition sur les points que l'on voulait aborder, sur tout ce qui était ingénierie sociale et manipulation des foules, notamment avec expérience de Milgram, dissociation traumatique. On parlait de charte de Biedermann. On a déjà entendu parler de fenêtre de Wharton. Donc, le triangle de Karpman, etc. En fait, donc, ces éléments-là qu'on a entendus, nous, des fois, voilà, sur des réseaux ou autres, nous, les citoyens, finalement, en fait, c'est quoi? Est-ce qu'on les retrouve dans cette crise actuellement? Donc là, Amandine va prendre le relais. Ce que je vous propose, comme on a déjà pas mal avancé dans le temps, si ça vous convient à toutes et tous, les filles et Jean-Dominique, c'est qu'on puisse juste ces points-là, expérience de Milgram, juste vraiment faire une synthèse très, très, très rapide. De ces points-là, en fait, c'est quoi? Comment ça marche? Très rapide. Et au moins, éventuellement, en deuxième partie, pour qu'on aille jusqu'au bout, en fait, du programme et qu'on puisse éventuellement les développer à l'issue, on va dire, sur la deuxième partie du live, si ça vous intéresse, puisqu'on a des points qui seraient quand même très intéressants de pouvoir quand même aborder à l'issue. Amandine, je t'en prie.